Direct en jeu, la radio insolite. Accrochez vos oreilles. Ta 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 ta. Je me suis trompé. Bonjour Sophie. J'ai pas fait la bonne chanson, c'est ça?
Non, pas tout à fait, mais c'est pas grave. Ça pourrait aller.
C'est quand même du cinéma, donc c'est quand même historique. C'est quand même plein de choses et tout. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors, on a parlé il y a quelques jours, de La Faiseuse d'Ange, qui est un spectacle que tu présentes. Mais oui, cette fois-ci, on va rester en France et on va retourner, comment dire, à une époque passée, entre guillemets.
Oui, on va se retrouver à la cour du roi Louis XIII, au XVIIe siècle, pour une comédie musicale presque historique. J'insiste sur le presque parce que sur fond d'histoire, malgré tout, on est parti dans un délire burlesque, mêlant donc les grands personnages de l'histoire, les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas et l'histoire des Ferrets de la Reine. Et on a fait notre petite salade avec tout ça pour en tirer un spectacle très très loufoque, très très burlesque et très drôle. Voilà.
Il y a juste un truc qu'il va falloir redéfinir, parce que bon, les gens te connaissent, tu es connu au niveau galactique, je ne dirais pas mondial, mais carrément dans toute la galaxie. Mais malgré tout, question, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie, déjà?
Alors, moi, je suis chanteuse, comédienne et auteur-compositeur. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. On me retrouve sur scène donc en tant que chanteuse-comédienne et j'ai écrit, je sais pas, peut-être une vingtaine voire plus de livrets de spectacles, enfin de scénarios de pièces de théâtre, toujours musicales parce que ma première formation, c'est une formation de musicienne, donc je mets toujours de la musique dans mes spectacles. Et donc j'écris les textes et je compose la musique quasi tout le temps. Donc voilà, sauf notamment pour La Faiseuse d'Ange, exceptionnellement, où c'est pas moi qui ai composé la musique, non, on en a parlé lundi dernier. Mais sinon, voilà, pour ce spectacle, L'Affaire Buckingham, j'ai composé la musique.
D'accord.
Et donc voilà, le dernier spectacle qui a pu être vu à Avignon, c'est Mademoiselle Gabrielle Chanel. On a fait 3 à Avignon, donc notamment, donc le dernier étant l'an dernier, à la condition des soirs, où j'avais également écrit le livret et la musique.
Dis, si je dis pas de bêtises, la comédie musicale n'existait pas sous Louis XIII.
Non, alors je préfère parler de spectacle musical parce qu'on est
le spectacle musical.
Ouais, on est 5 sur scène et voilà, c'est pas un grand show comme on peut imaginer quand on parle de comédie musicale. C'est un spectacle musical où ça chante, ça danse un peu et où ça joue beaucoup en théâtre. Alors l'histoire, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mélange d'histoire de France avec des vrais personnages et quelques complots ou quelques histoires vraies tirées de l'histoire de France. Et puis après, on a enjolivé, on a fait un petit peu notre histoire à nous.
Okay.
Donc d'un côté, on a Marie de Médicis, on est donc à la cour de Louis XIII. Louis XIII est marié à Anne d'Autriche et Louis XIII n'a pas d'enfant, puisque ça, c'est la vraie histoire. Louis XIV, issu donc du couple Louis XIII et Anne d'Autriche, est arrivé très très tardivement après des années et des années de mariage où il n'y avait pas d'enfant. Donc là, on est à cette époque-là où il n'y a pas d'enfant et où tout le monde s'inquiète un peu donc pour l'avenir du royaume. Donc d'un côté, on a Marie de Médicis qui est la mère de Louis XIII, qui a un autre fils, Gaston, qui est le fils cadet, qu'elle préfère et elle voudrait vraiment le mettre sur le trône et comme Louis XIII n'a pas d'enfant, pas d'héritier, il va certainement être obligé d'abdiquer, ce qui l'arrange bien. Comme ça, elle pourra mettre Gaston à la place de Louis XIII sur le trône et par la même occasion tirer les ficelles du pouvoir. De l'autre côté, on a Richelieu, l'éminence grise de Louis XIII, qui lui ne veut surtout pas perdre le pouvoir et si Gaston est au pouvoir, ce sera Marie de Médicis comme je viens de le dire, qui tirera les ficelles. Donc, lui, il sera out. donc, lui, il n'a aucun intérêt à ce que Louis abdique. Et donc, il va manigancer un complot pour que Anne d'Autriche soit répudiée, ce qui laisserait Louis au pouvoir. Et pour qu'elle soit répudiée, il faut qu'elle ait un amant et qu'elle soit adultère, puisque donc ça c'est la vraie histoire. Hein, une reine adultère était répudiée. Donc là, Richelieu et Louis XIII ont une opportunité parce que arrive en France le duc de Buckingham, qui est donc un Anglais, et qui vient en France pour traiter des affaires d'État, et il a la réputation d'être un grand séducteur. Et donc Richelieu va lui demander de séduire la reine. Et Médicis va tenter d'empêcher ça en montant la garde devant la chambre de la reine, ce qui va impliquer tout un acte de la pièce avec des quiproquos vraiment à la Phédo. Et on est dans le vaudeville et on est dans le Phédo là. Et finalement, donc Anne va succomber au charme de l'Anglais. Elle lui offre ses ferrets en gage de son amour. Donc, ses ferrets, c'est un collier de diamants que lui a offert son mari, Louis XIII. Et donc, pour que tout le monde sache qu'elle a un amant, Louis XIII et Richelieu organisent un grand bal où ils lui demandent de porter ses ferrets qu'elle n'a pas puisqu'ils sont repartis en Angleterre. Et Médicis, sachant ça, va dépêcher sa garde rapprochée qui est donc D'Artagnan mais qui n'est pas encore mousquetaire, et elle lui demande d'aller chercher les ferrets en Angleterre, en échange de quoi elle le fera mousquetaire. Et donc ça nous amène à la dernière partie du spectacle, le voyage de D'Artagnan qui ne parle pas anglais en Angleterre, donc avec aussi beaucoup de burlesque et de comédie. Il finit par rapporter les ferrets et il y a une petite pirouette à la fin de l'histoire, mais je ne la dévoilerai pas.
Bah non, il faut aller voir le spectacle.
Voilà, parce qu'il faut aller voir le spectacle. Et alors, l'originalité également de ce spectacle, c'est que je l'ai écrit en alexandrin. Donc, on a un ressort comique qui est accentué par ce langage en alexandrin qui est un langage quand même assez précieux puisqu'il y a des rimes, il y a 12 pieds à chaque vers, etc. Et au demeurant, le langage peut être un peu cru parfois, peut être très moderne. Donc, ça donne des, ça met en valeur en fait tous les traits d'humour, tous les jeux de mots qu'on peut avoir, parce que notamment c'est écrit en alexandrin. Se rajoute à ça de la musique et des chansons. Donc la musique est enregistrée, les chanteurs chantent en direct, et la musique est plutôt pop rock. Donc on a vraiment quelque chose à la fois contemporain, moderne, et vraiment les chansons sont elles sont complètement décalées en termes de texte, donc très drôles. Et la musique, c'est Simon Gardet qui a fait les arrangements musicaux sur ma musique, qui est un arrangeur avec beaucoup de talent et qui manie tout style de musique avec brio. Donc on a vraiment des choses très très pop rock qui sont vraiment super, et on est en costume d'époque. Voilà.
D'accord. Pourquoi en alexandrin?
Eh bien, pour donner justement, alors d'abord pour se démarquer un peu, parce que j'ai trouvé que le c'était original de traiter une histoire à l'époque qui se passe à l'époque de Racine ou de Corneille, en alexandrin, et en ayant une modernité et un côté vaudevillesque et un côté fédo. Donc voilà, moi ça m'a intéressé de travailler comme ça, pour l'originalité et pour se démarquer un peu de ce qui se fait, quoi.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça paraît très pédagogique. C'est-à-dire, j'ai même plus besoin d'aller à mes cours d'histoire. Il suffit que je vienne voir ton spectacle et j'ai une partie de la réalité. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose.
Ah oui, 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 il y a une partie de la. Le fond de l'histoire est vraiment tiré de l'histoire de France. Après, ça déconne pas mal quand même, hein. Si je peux me permettre.
D'accord, donc ça chante, ça rigole, ça apprend, mais c'est bien, c'est presque parfait comme pestacle. Spectacle, spectacle.
Ouais. Plus. Alors, pour ceux qui ne vont pas à Avignon, nous serons au Théâtre Essaillon au mois de mai, à partir du 5 mai et jusqu'au 28 mai, tous les lundis, mardis et mercredis, avec quelques relâches que je peux vous donner en direct.
Alors, vas-y, donc tu cherches, je rappelle que l'Essaillon est aussi à Paris, il n'est pas qu'en Avignon, c'est important à signaler. Voilà.
Voilà, donc là, à Paris, à l'Essaillon, à partir du 5 mai, donc tous les lundis, mardis, mercredis, sauf le mardi 13 mai et le mercredi 21 mai, mais sinon ça joue tout le temps. Mmh. Et puis après, au Festival d'Avignon, nous sommes au Cabestan, au théâtre Le Cabestan, à 21h30. Donc pour finir la soirée avec beaucoup d'humour, c'est parfait. C'est un spectacle où on ressort vraiment avec la banane. Le Berry républicain a écrit sur ce spectacle « Mélange de théâtre burlesque et de comédie musicale pour cette version des Trois Mousquetaires où l'on côtoie les grands personnages de l'histoire dans une vérité historique qui compte peu. » Très belle interprétation, jeu des comédiens, le public rit. Voilà. Donc on a un petit résumé de ce qu'on produit.
Et moi, j'ai une autre présentation qui dit spectacle musical sans cap, mais sur canapé. C'est bien, c'est tranquille, ça va.
Oui, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on est évidemment dans du vaudeville, dans de la comédie. Donc, il y a beaucoup de jeux de séduction, comme de couples qui se forment, qui se trompent, qui se trahissent.
Comme à l'époque.
Donc voilà.
Ça n'a pas changé.
Exactement. Exactement. Et dans la cour, à la cour des rois, particulièrement, faut pas D'accord. croire.
Sur ce spectacle, tu es en même temps auteur et comédienne.
Oui, auteur-compositeur. Et comédienne.
Auteur-compositeur et comédienne.
Voilà. Et je suis entourée de Julie Costanza, qui est donc comédienne-chanteuse, excellente dans Anne d'Autriche et dans La Princesse Henriette, parce qu'on joue tous aussi plusieurs personnages dans la pièce. Hein. Nous sommes cinq sur scène et donc on joue tous deux personnages. Il y a Guillaume Nocture qui interprète le prince Gaston et le duc de Buckingham. Arnaud Patron qui interprète Louis XIII et D'Artagnan. Et Jean-Philippe Azéma qui a fait la mise en scène, qui interprète le cardinal de Richelieu et un personnage, parce qu'à un moment donné... Marie de Médicis donne rendez-vous au duc de Buckingham dans un lieu, un espèce de bouge que nous on a transformé en boîte de nuit. Et donc c'est la tenancière de ce lieu qui est donc également jouée par Jean-Philippe Azéma. Voilà.
Donc une boîte de nuit à l'époque de Louis XIII, c'est original.
Ça
sort un peu de l'ordinaire. Pourquoi pas, on peut revisiter l'histoire, ça peut être sympa, ça peut être original et tout.
Oui.
Ok, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de faire Avignon?
Alors c'est une vitrine pour les compagnies Avignon, parce que tout le milieu professionnel se retrouve là-bas, ou en tout cas une grosse partie, des programmateurs, des journalistes, des diffuseurs, des artistes, des comédiens, des chanteurs. Donc c'est un foisonnement artistique qui est donc très important, parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on montre notre travail et qu'il est vu et qu'il est mis en avant. Si ça marche, il est mis en avant. Donc pour nous, c'est une manière de développer nos spectacles et notre travail, parce que c'est aussi là qu'on vend les spectacles pour les tourner. Donc c'est un moment très important de l'année. Hein. Alors c'est aussi très stressant, parce qu'il faut qu'on ait du public et que l'offre à Avignon est considérable. Hein. Il y a plus de 1500 voire 1600 spectacles. Donc il faut que le public là-dedans choisissent ces spectacles, et que nous, on se démarque pour que nos spectacles ou les spectacles qu'on propose soient accueillis par le public et par la profession, donc par les programmateurs. Donc on a deux vitesses. Nous, il faut qu'on ait du public, parce que jouer sans public, c'est pas possible. Et puis Avignon coûte très cher, donc une des rentrées d'argent, c'est la billetterie, soyons clairs. S'il y a du public, ça veut dire que le spectacle plaît, ça veut dire qu'il a un avenir évidemment plus tracé que s'il n'y a pas de public. Après, c'est vrai que parfois il faut plusieurs années pour que les spectacles marchent. Première année, parfois on a des spectacles qui ont un retour public, je dirais moyen plus, et puis c'est la deuxième année, parce que le bouche à oreille fonctionne à Avignon, mais il fonctionne aussi d'une année sur l'autre, curieusement. Donc c'est vrai que quand on va plusieurs fois avec le même spectacle à Avignon, ça se développe, donc on a cet objectif de public, et puis grâce à la presse, donc nous on a Dominique Lotte en attaché de presse qui fait un travail aussi au niveau de la presse. On a les planches diffusion qui vont diffuser ce spectacle auprès des programmateurs. Donc voilà, notre deuxième objectif, c'est d'avoir de la presse des programmateurs qui viennent voir le spectacle et qui l'achètent pour qu'on ait des dates de tournée. Donc voilà, c'est Avignon, d'accord, c'est un gros enjeu pour les compagnies et c'est important. Voilà.
D'accord. Écoute, moi je voulais te remercier. On rappelle donc Allez Saillon à Paris au mois de mai, au Théâtre du Cabestan au mois de juillet en Avignon. Si on veut des informations, on tape Sophie Jolis, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, ou bien on va sur le site de la compagnie, donc croquenjambetoutattaché.art. Et puis sur les réseaux sociaux, effectivement, sur Sophie Jolis, il y a toute la communication des spectacles qui passe par là également.
Parfait. Mais écoute, moi je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout
ça. Merci beaucoup.
Et puis rendez-vous au mois de juillet.
Absolument. Merci. Au revoir.